Europe 1, la Libre Antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence toujours chaque soir en vous demandant si vous allez bien. Est-ce que vous vous le demandez chaque jour si vous allez bien ? Alors on peut se dire « ouais, je vais pas trop mal en ce moment » ou « oui, je suis plutôt heureux » ou on peut se dire « bon, ça va pas très bien en ce moment, je ne sais pas vraiment, finalement je ne sais pas vraiment dire si je vais bien ou pas ». Posez-vous cette question, chers amis, et répondez-y avec franchise vis-à-vis de vous-même. Est-ce que tout va bien dans votre vie ? Est-ce que vous ne vous posez pas certains moments certaines questions ? Est-ce que vous prenez le temps de vous poser des questions et est-ce que vous prenez le temps pour vous ? Ça, c'est tout un tas de questions que vous pourriez vous poser. Et si vous le désirez, nous pouvons en parler ce soir, bien évidemment. Pour ça, vous pouvez m'appeler, vous le savez, c'est votre libre antenne, vous êtes ici chez vous. Et c'est avec vous que j'ai envie de parler, de cheminer. Donc, vous composez le 39-21 et peut-être aurai-je le plaisir de vous parler tout à l'heure. 39-21, 50 centimes d'euros la minute. 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour vos SMS. Vous nous adressez vos mails à libreantenne@europe1.fr et vous nous écrivez vos messages en privé, si vous le désirez, sur la page Facebook Olivier Delacroix, Yann Moix, La Libre Antenne, où vous pouvez adresser vos messages à Julia et à Florian. Nous sommes avec Laurent Pellet, notre réalisateur, qui est de retour ce soir. Et c'est un grand retour en triomphe. On est très content de le récupérer. Bon, ça allait très bien avec Romain, mais nous sommes très contents de te voir revenir, mon cher Laurent. À 23h11, c'est le début de votre libre antenne du lundi.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter votre libre antenne, nous accueillons Jimmy au 39-21. Bonsoir Jimmy.
Et bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Jimmy et quel âge avez-vous ?
Alors j'ai 44 ans et je vous appelle de Perpignan.
De Perpignan.
De Perpignan.
Très très belle région que votre région. Quelle chance d'habiter là-bas.
C'est une chance, j'avoue.
Ouais. Non mais c'est vrai, j'ai eu la chance d'aller y tourner régulièrement et j'aime beaucoup cette région. J'aime beaucoup les gens aussi là-bas. Je trouve que vous avez cette chance d'être entre mer et montagne et c'est vraiment une région fabuleuse. Puis l'Espagne, tout près, donc voilà.
C'est vrai qu'on a beaucoup de chance au niveau du climat, au niveau de tout.
Qu'est-ce qui vous amène, mon cher Jimmy ?
Eh bien, écoutez, on va parler de prostitution, de la traite d'êtres humains et de lois juridiques en France.
D'accord.
Si vous me permettez.
Je vous en prie.
Donc voilà, donc j'habite à Perpignan et donc si je vous parle de prostitution, c'est que je suis une personne qui est directement concernée par le sujet puisque je suis née dans ce milieu-là. Il y a 44 ans, donc, d'une mère prostituée et d'un père proxénète. Donc une mère qui était mariée jadis et qui s'est séparée de son premier mari pour rencontrer donc mon père génétique qu'elle a rencontré dans un bar un soir et qui est donc devenu son proxénète malheureusement. Ma mère a donc travaillé dans la prostitution, je dis travailler hein, puisqu'elle a exercé cette activité donc sous contrainte pendant quelques décennies.
Et sous contrainte, d'accord.
Alors oui, sous contrainte, oui.
Alors sous contrainte, ça ne va pas... Sans violence, je suppose, sans coup, sans violence psychologique. Elle a pratiqué dans là-bas dans votre région ou ici dans la région parisienne ?
Non. Alors non, pas parisienne. Hein. Donc, on vient de Strasbourg. Je suis alsacien à la base. Donc, je suis né dans un petit village alsacien. Ma maman a exercé à Strasbourg.
D'accord.
Donc, en face de la gare pendant pratiquement 30 ans. Donc,
ah ouais, d'accord.
Sur le trottoir. Alors, quand je dis sous contrainte, alors déjà la prostitution en soi est une contrainte. Pour 85% des victimes, ça n'engage que moi les chiffres, mais ce sont les chiffres officiels. Et donc, ma maman donc, avait un proxénète, et mon père donc forçait ma mère à travailler dehors, hiver comme été, donc sous la menace et sous la contrainte.
Et c'était votre père, hein, c'est ça ?
C'est mon père génétique, exactement. Alors, c'est pas celui qui nous a reconnu légalement, mais c'est mon père génétique qui a mis ma mère, pardon, sur le trottoir.
D'accord. Il n'a, parce qu'on est en province, à Strasbourg, il n'a jamais été mis en cause, votre père, à aucun moment ?
Il a été mis en cause, alors il y a eu des soupçons. Donc, vous savez bien que pour être mis en examen pour proxénétisme, il faut quand même qu'il y ait une plainte à la clé. Donc, à l'époque, ma mère avait quand même un petit peu peur de mon père génétique. Donc, les plaintes n'ont pas forcément soit abouti ou ne sont pas allées jusqu'au bout. Donc, oui, mon père a été mis en cause, mais il n'a pas été emprisonné pour ça. Il a été emprisonné la plupart du temps pour d'autres motifs, qui étaient donc des braquages, puisque mon père était un délinquant. Hein, donc,
C'était un voyou.
C'était un voyou, oui, tout à fait. C'était un voyou. Il vendait ma mère au début à ses copains pour pouvoir payer les dettes de ses jeux. Et puis, en accélérant un petit peu, ben, il a mis ma maman sur le trottoir, en mettant d'autres femmes également sur le trottoir, et a abusé finalement en fait de ces femmes. Ce que j'appelle donc la traite des humains, on ne peut pas l'appeler autrement.
Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a heurté. Comment des hommes arrivaient à avoir une emprise, mais je sais que c'est un peu naïf hein, comme raisonnement, mais aussi longtemps, voyez-vous.
Sur de longues années, oui.
Mais oui, alors, 44 ans, oui. C'est toute
alors,
une vie.
C'est toute une vie, mais bon, il n'y a pas eu 44 ans non plus de traite d'êtres humains. Enfin, à un moment donné, mon père a mis ma mère sur le trottoir et ça a engendré donc ensuite quelques décennies de prostitution. Une personne qui met l'engrenage, qui met le doigt dans cet engrenage-là ne s'en sort pas. Une personne qui rentre dans la prostitution pour quel que soit le motif par ailleurs, ne peut pas s'en sortir. Hein. C'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, vous avez des marques et des séquelles qui restent. Donc, ma mère, en fait, elle ne s'est pas séparée de cette activité pour la bonne et simple raison que ça a aussi été sa survie. Ça a été son moyen, en fait, de s'émanciper et de quitter son mari. Donc, le fait de rester dans la prostitution a permis à ma mère de quitter mon père.
Tout en continuant à exercer donc son activité, oui. Au même endroit.
Alors, au même endroit, alors sous protection, donc, bon, mon père est mort relativement jeune, il est mort dans les années 90, à l'âge de 34 ans.
D'accord, il est mort de quoi, sans indiscrétion?
Il est mort d'un accident de voiture en roulant dans le sens inverse d'une autoroute, et fatalement, il est décédé, donc...
Oui. Il est plutôt mort en fuyant à sens inverse sur l'autoroute, il y avait peut-être les gendarmes à ses trousses, non?
Non, à ce moment-là, non. Je pense qu'il avait plutôt d'autres problèmes, ou des dettes qu'il devait rembourser, qu'il n'a pas pu, donc je pense qu'il était poursuivi. Bon, quoi qu'il advienne, il est mort sur un bout de trottoir là où il a mis ma mère. Donc,
d'accord.
Quelque part, on lui a rendu un petit peu. Mm-hmm. Voilà. Donc, après, je l'ai connu. Hein, je l'ai connu très jeune, mon père. Et vous parliez d'emprise sur ma mère. Oui, oui, oui. Mais vous savez, c'est encore aujourd'hui. Cette emprise-là, vous l'avez encore aujourd'hui. Il existe une multitude d'hommes ou de femmes, d'ailleurs, qui ont emprise sur une autre personne.
Bien sûr, bien sûr. Vous avez raison.
Notamment, mm-hmm. notamment dans la prostitution.
Disons que, si vous voulez, aujourd'hui, en France, je suppose que ça existe encore, hein, parce que c'est un procédé, l'emprise, c'est quelque chose qui existe pour tout un tas d'activités. Hein, mais on a...
Voilà, il s'agit quand même de traite d'êtres humains.
Donc, oui,
hein,
oui.
Il y a quand même... C'est quelque chose qui nous touche vraiment... Toutes et tous, hein, je veux dire, la prostitution n'a pas d'âge, donc n'a pas de milieu non plus. Et en parlant d'emprise, vous voyez bien, les journaux sont remplis quotidiennement d'articles qui disent que les jeunes, les mineurs sont dans la prostitution parce qu'elles sont dans l'emprise ou parce qu'ils sont dans l'emprise sous l'emprise de quelqu'un d'autre.
Donc, c'est vrai, c'est vrai.
C'est pas un phénomène vrai. Très marginal, contrairement à certaines associations qui prônent aujourd'hui en disant oui, c'est des faits marginaux. Non, non, non. La réalité, c'est pas vrai du tout. La réalité, c'est que dans la prostitution, vous avez toujours encore autant de traite d'êtres humains que vous en aviez il y a 30 ou 40 ans.
Ah oui, vous pensez, d'accord, vous pensez que c'est toujours au même point aujourd'hui?
Ah mais c'est bien évidemment, pour moi c'est même une certitude, j'habite au bord de l'Espagne, donc je peux vous parler de ce que je vois à côté, je peux vous parler de ce que je vois à Perpignan, donc qui est quand même une ville relativement pauvre.
Oui.
Je me déplace énormément en Allemagne pour des raisons professionnelles, donc je peux vous raconter ce que je vois dans les quartiers de la gare. Donc,
ah, d'accord.
Tout ce qui est prostitution, ça reste quand même très 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 marginal. Une prostitution consentie reste marginale. Voilà.
Vous évoquez l'Espagne, Jimmy, vous évoquez l'Espagne et l'Allemagne où la prostitution est légiférée d'une autre manière qu'en France pourtant.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Les légales en Allemagne, vous avez ce qu'on appelle les zéro center. Donc la situation juridique des prostituées en Allemagne, elle est totalement différente de celle de la France. Et la situation juridique d'Espagne par rapport à la France est encore différente. Vous avez ce qu'on appelle les bordels. Mais enfin, quoi qu'il advienne, vous les avez plus dans la rue. Le seul pays en Europe où vous avez encore des prostituées dans la rue reste la France, quand même.
Alors, quelle est votre position là-dessus, justement ? C'est très intéressant d'évoquer cela avec vous. Vous avez, vous, l'expérience d'abord d'un enfant, puis d'un adolescent, puis d'un jeune adulte et d'un adulte qui a vu sa mère pendant 44 ans sur le trottoir. Vous habitez près d'Espagne, donc l'Espagne gère d'une autre manière que la France. Hein. Vous m'avez dit, il y a des sortes de bars remplis de filles en Espagne, c'est ça ?
Ah oui, ça s'appelle des bordels, hein. C'est le terme officiel en Espagne, ce sont des bordels. En Allemagne, ce sont des zéro centaires, mais en Espagne, ce sont des bordels.
D'accord. Et donc, vous êtes d'accord avec cette façon de gérer la prostitution ?
Non. Alors, je ne suis absolument pas du tout pour les zéro centaires, ni pour les bordels, parce que je pars d'un principe, c'est que les personnes qui se revendiquent être donc travailleuses du sexe ou prostituées, puisque pour moi c'est la même chose, hein, donc, qui se revendiquent être consenties dans cette activité-là, doivent être protégées. Moi je ne suis pas un abolitionniste, ça vous l'avez compris, mais je ne suis absolument pas du tout pour qu'il y ait le proxénétisme valorisé. En Allemagne comme en Espagne, vous louez donc des vitrines, vous louez une place finalement, et vous payez donc un proxénète pour pouvoir travailler librement. Alors en France aussi, puisque vous avez des annonces dans les journaux de manière légale avec un numéro de ciré, donc la prostitution existe réellement et de manière légale en France aussi. Mais je ne suis pas du tout d'accord sur les maisons closes. Moi, je suis un réglementariste. Je pense qu'en profession libérale, à la limite, en coopérative, hein, quand elles sont entre elles, il ou elle, hein, oui, mais je ne suis pas du tout pour l'exploitation, comme on voit en Espagne, comme une usine. Moi, je me retrouve à 20 km des bordels. Vous les citez, c'est le Paradise, par exemple, qui a 600 filles quotidiennes qui travaillent à l'intérieur. C'est une boucherie, c'est une usine. Je ne suis absolument pas pour ça du tout, du tout, non. Je m'étais d'ailleurs exprimé lorsqu'une députée de la majorité, il y a 4 ans en arrière, avait souhaité relancer le débat pour l'ouverture des maisons closes. Donc moi, je m'y oppose, je ne suis pas pour l'ouverture des maisons closes. Au demeurant, si c'est la seule solution pour pouvoir sortir des personnes prostituées de la rue, je ne m'y opposerai pas, puisque je préfère quand même les voir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moi, ce qui m'aberre aujourd'hui le plus, c'est de voir encore aujourd'hui des femmes rabrouées au quotidien qu'on trouve encore dans la rue. On considère la prostitution comme un crime et on passe donc devant ce crime au quotidien sans rien faire, que ce soit vous et moi. Et donc, cette prostitution-là, que vous allez me dire que celle qui est visible, je souhaite la cacher. Une fois de plus, non, je veux tout simplement ne plus voir parce que personne n'a envie de voir sa maman faire le tapin. Aucun enfant a envie de se retrouver sur
un trottoir. Bien évidemment.
Que personne ne me dise qu'on a envie de se prostituer dehors dans le froid avec moins 5 degrés. C'est quelque chose qui n'existe tout simplement pas. Donc, cette prostitution-là doit disparaître d'une manière ou d'une autre. Nous devons faire quelque chose en 2023. Surtout nous, la France, le pays qui se targue quand même d'être le pays de droits de l'homme et de l'être humain.
Vous évoquez un pays où il y a le plus de prostitution dehors. Donc, on a un réel problème avec ça.
Alors, alors, bien sûr que je parle de la prostitution de dehors, mais enfin, la digitalisation aujourd'hui pose problème également. Vous avez des mineurs qui postent des annonces sur des sites comme Gay Romeo pour les personnes homosexuelles, Viva Street qui a été fermé, mais d'autres sites comme Badou continuent à poster des annonces. Vous avez des sites qui ont été détournés de leur fonction d'origine, comme TikTok qui était quand même un site de vidéos drôles et qui est devenu aujourd'hui au fil du temps un site internet où l'on peut passer des annonces en toute impunité, parce que je vous rappelle quand même que les annonces qui sont passées ou les jeunes filles qui vous draguent un petit peu sur TikTok ou sur Instagram, qui vous envoient un message un petit peu allumé, on va dire, il y a bien quelqu'un derrière. Donc vous voyez bien que cette traite d'êtres humains n'a pas disparu. On promulgue cette prostitution dehors, on la promulgue sur Internet. Et qui sont touchés, ce sont nos enfants, parce que ben, quelque part, aujourd'hui, on l'a tellement banalisé que la prostitution ne s'appelle plus prostitution, ça s'appelle cam girl, ça s'appelle escort girl, ça s'appelle accompagnateur, ça s'appelle daddy sugar, ça s'appelle... Ben, on a inventé tous les termes inimaginables pour pouvoir cacher cette prostitution. Ce n'est pas moi qui veux la cacher, moi je veux la voir restreindre. Alors qu'en fait, on fait tout pour qu'elle soit visible et sans accès. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Complètement, complètement. Mais donc, que moi, faire alors pose. Que faire, Jimmy ?
Moi, je suis pour qu'on puisse. Alors, bon, j'allais me dire que je suis incohérent, mais on va reprendre dès le départ. Il existe ce qu'on appelle un PSP, un parcours de sortie de prostitution. Ce parcours de sortie de prostitution qui a été mis en place en 2016 suite à la loi de la pénalisation des clients, à laquelle je suis bien évidemment défavorable, c'est 343 euros et 20 centimes pour une personne seule, prostituée, pour pouvoir sortir et trouver un autre chemin. Qu'est-ce que vous faites avec 340 euros? Évidemment rien. Donc moi j'appelle ça un parcours d'entrée de prostitution. Donc moi je suis pour quadrupler déjà cette somme-là. Ensuite, en deuxième niveau, je suis pour qu'on puisse interdire clairement et formellement la prostitution de rue et la prostitution de mineurs sur Internet. Il faut fermer les sites Internet qui aujourd'hui sont accessibles à vos enfants. Parce que je vous rappelle une fois de plus que les parents ne maîtrisent pas TikTok, mais les enfants le maîtrisent très bien. Donc voilà. Et en dernier lieu, je souhaite réglementer la prostitution consentie, c'est-à-dire la légaliser, si vous voulez, et la protéger. C'est-à-dire qu'on ne se prostitue pas n'importe comment. C'est il faut avoir fait un cadre juridique, quelque chose d'extrêmement. Il faut voir ce qui se passe chez les voisins, ce qui ne va pas et ce qui va, et ensuite faire quelque chose de concret, c'est-à-dire légiférer. Excusez-moi de dire ça, mais depuis 1946, nous n'avons pas légiféré, nous n'avons eu que des amendements. En passant du racolage, actif, passif, sur la pénalisation des clients, la pénalisation ne règle pas le problème de la prostitution. Et il faut criminaliser le proxénétisme, vous l'avez bien compris, et décriminaliser la prostitution lorsqu'elle est consentie. Mais il faut protéger ces personnes qui sont aujourd'hui dans la rue parce qu'elles ne le sont pas, et on les laisse dans une indifférence générale. Ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais vous dire, mais la France est devenue quand même un pays où on reçoit tout le monde n'importe comment et on peut se prostituer n'importe où. Excusez-moi, mais dans les autres pays, ça ne se fait pas comme ça. Vous n'allez pas vous prostituer en Allemagne si vous n'avez pas des papiers en règle. Donc ça paraît peut-être discriminatoire, je vais vous paraître peut-être un petit peu même raciste, et il n'en est pas du tout de question, je suis une personne totalement sociable.
Vous allez en Allemagne, Jimmy, je vous arrête, il y a tout un tas de personnes qui viennent de Roumanie, des pays de l'Est, et je ne suis pas certain qu'ils soient en règle.
Alors,
totalement.
Alors elles sont quand vous travaillez dans un Eurocenter, donc une fois de plus...
Oui, quand vous travaillez dans un Eurocenter, oui.
Ah oui, voilà, mais la prostitution en Allemagne ne peut pas être, elle n'est pas tolérée si elle n'est pas dans un Eurocenter. Donc vous avez
ce qu'on appelle des dérives. Visiblement,
vous avez ce qu'on appelle des dérives, mais l'État a le contrôle. Ce sujet sociétal qu'est la prostitution doit devenir un sujet politique, quoi qu'il advienne. Donc celle est en Allemagne, on arrive à débattre sur ce sujet. En France, nous ne faisons rien. C'est-à-dire que nous ne faisons rien depuis des années. Vous avez eu la droite qui a pénalisé la prostituée, vous avez la gauche qui pénalise le client, et ainsi de suite. Mais sur le fond, on sait très bien que ça existe. On sait que ça existe dans tous les pays du monde entier. Donc, que fait-on pour qu'il n'y ait pas une prostitution non consentie comme on en a en France, c'est-à-dire
que fait-on
majoritaire?
Que fait-on?
Voilà, mais il
alors,
faut
avant que vous me répondiez, on va marquer une pause et vous allez m'expliquer justement ce que l'on pourrait faire. À tout de suite, Jimmy.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est 23h28 sur Europe 1, c'est votre libre antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et nous sommes avec Jimmy de Perpignan. Jimmy qui est le fils d'une dame qui s'est prostituée, sa maman s'est prostituée pendant plus de 44 ans. Et ce soir, Jimmy nous donne la vue qu'il a, le regard qu'il porte sur la prostitution. Et surtout, Jimmy, vous vous apprêtiez à me parler de législation autour de la prostitution. Alors, que faut-il faire pour améliorer la situation de toutes ces femmes, ces filles et ces garçons aussi, et ces hommes? Car je rappelle que les deux sexes se prostituent. Et vous l'avez évoqué, les réseaux sociaux ont favorisé encore plus cette prostitution. Que faire pour protéger toutes ces personnes?
La protection, elle commence avec la reconnaissance de toute forme du travail sexuel, contre la prohibition du travail sexuel, puisque pour vous le rappeler, qu'il existe aussi des personnes qui font ça de manière consentie. Une fois que nous avons protégé celles-ci en leur donnant un statut juridique, un statut tout court, elles auront donc ce qu'on appelle des droits. Elles vont donc avoir une ouverture de droits et de devoirs. Mais ça existe en France, Olivier. Vous avez des numéros de Siret qui correspondent au code APE 930N, qui est donc le service personnel. Donc, si vous voulez, l'activité en soi, elle est déjà légale quelque part. Seulement, compte tenu du fait que nous ayons une multitude de prostitutions étrangères qui est assujettie à des papiers qui ne sont pas en règle, on est donc systématiquement en fait en train d'accepter une prostitution non consentie parce que justement, on ne peut pas faire autrement. Donc pour moi, en France, il faut légiférer en donnant un statut travail sexuel que je ne suis pas forcément pour ou contre, je veux dire chacun aura son opinion, mais comme ça existe il va bien falloir trouver quand même le moyen de le reconnaître. Une fois que cette ouverture-là est faite, c'est-à-dire qu'on a légiféré sur ça, il va falloir encadrer strictement l'activité de la prostitution. Pour moi, une personne en dessous de 21 ans ne se prostitue pas par choix. Vous voyez ce que je veux dire ? Une personne qui travaille dans un endroit que vous trouvez vous protégé, comme la Belgique, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, les témoignages vous le démontreront quasiment tous, elles ne sont pas plus heureuses que dehors. Donc, il y a aussi à prendre en compte un petit peu cet aspect-là. Donc, la prostitution aujourd'hui, il faut qu'elle soit comme une profession libérale où vous travaillez chez vous, à la maison. Voilà, ça existe, je vous rappelle.
Nous avons eu plusieurs témoignages allant dans ce sens. Donc, oui. Nous savons que ça existe ici, puisque nous avons eu l'appel on a eu trois appels, en tout cas de femmes qui exerçaient la prostitution en libérale et qui payaient des impôts.
Mais tout à fait, c'est une profession libérale. Vous ouvrez les journaux, je vous le répète, vous ouvrez les journaux et vous avez des personnes qui mettent des annonces tarifiées. Ça paraît aberrant, mais vous avez donc des journaux qui tarifient des annonces de prostitution pour des prestations sexuelles tarifiées. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que ces annonces existent. Donc, pourquoi pas se pencher là-dessus, puisque c'est quelque chose qui fonctionne. C'est aussi là où vous avez le moins d'agressions. C'est là où vous avez le moins de risques, parce que les personnes sont chez elles et qu'elles travaillent avec... Alors, une fois de plus, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre ce genre d'annonces qui sont visibles à la vue de nos jeunes ? Je ne vais pas débattre là-dessus, mais en tout cas, c'est beaucoup plus sécurisé qu'une prostitution de rue lorsque j'ouvre ma fenêtre et que je vois des personnes, quand il fait 2 degrés, en mini-jupe, dans le froid, dans une insécurité totale. Donc, voilà, ça existe, bien sûr que ça existe. Donc, pourquoi pas le reconnaître ?
Bien évidemment, vous avez raison, mais je crois qu'il y a une hypocrisie énorme dans ce pays, et je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises sur cette antenne, il y a une hypocrisie, et le premier homme politique qui va s'aventurer sur ce terrain-là va se faire pulvériser. Vous savez, ce sont des sujets très bouillants en France, comme en Italie.
Mais c'est un sujet bouillant parce que nous sommes dans un pays abolitionniste, donc vous avez un camp abolitionniste et vous avez un autre camp qui s'est créé avec divers et variés syndicats, divers et variés associations qui se sont créés, qui promulguent la prostitution. Donc aujourd'hui, vous avez aussi un effet contraire. Il y a un moment donné, il faut trouver le juste terrain. Les abolitionnistes ne gagneront jamais. Vous ne pouvez pas me dire, personne ne peut me dire que la prostitution doit disparaître, elle ne disparaîtra jamais. Moi, je dis tout le temps que la prostitution ne doit pas être un métier comme un autre, parce que si c'était un métier comme un autre, il y aurait apprentissage, et apprentissage prostitution, j'y suis farouchement contre. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, au moins pour ça. Seulement, entre les deux, entre l'abolitionniste et le pro-prostituteur, vous n'avez pas de réglementariste qui ose. Pourquoi ? Alors, si vous voulez, on continue donc à dire que la prostitution est un crime, et lorsque vous rentrerez tout à l'heure, vous passerez au bois de Vincennes, et vous voyez donc...
C'est pas vraiment mon chemin, mais...
Non, mais bon, vous penserez à moi, vous verrez, vous passerez devant, mais enfin, vous êtes déjà passé devant des personnes prostituées.
Le bois de Vincennes,
tout de même,
le bois de Boulogne,
voilà. Exactement.
La porte de Saint-Cloud, vous voyez plein de camionnettes,
exactement,
il y a une
donc,
prostitution installée là, avec des voitures de police qui passent devant, et je veux dire, tout ça est toléré maintenant.
Alors, c'est bien sûr que c'est toléré, puisque les lois qui ont été mises en place depuis maintenant, alors en 2003, nous avions le délit de racolage. En ce qui me concerne, je suis une personne très impliquée dans la prostitution, donc en ce qui me concerne dans ma région Occitanie, nous n'avons jamais eu un problème, hormis sur la route de Narbonne, quelques-uns, des contraventions pour le délit de racolage, jadis. Aujourd'hui, vous avez la pénalisation de clients, je crois qu'on a 2600 verbalisations depuis 2016, ce qui est absolument très peu finalement. Donc en fait, il n'y a pas de violence policière sur les personnes prostituées. La police a autre chose à faire que de verbaliser une prostituée ou un client. Elle a autre chose à foutre, excusez-moi de dire ça. Donc si vous voulez, il faut quand même trouver... À un moment donné, on ne peut plus passer devant ces personnes, dire que c'est un crime et laisser ce crime finalement sans rien faire. C'est impossible, c'est impensable. Moi, ma maman, elle a demandé pendant 40 ans à sortir de la prostitution. Vous m'excuserez, Olivier Delacroix, mais si on ne fait rien, aujourd'hui, on va rester à 343 euros pour le PSP, le parcours de sortie de prostitution, et on laisse les personnes comme ma mère sur le trottoir toujours et encore. C'est quelque chose qui est insoutenable. Vous ne pouvez pas aujourd'hui passer devant le bois de Vincennes et laisser ces femmes et ces hommes dehors dans une indifférence générale. Elles ne l'ont pas souhaité.
C'est pourtant ce qui se passe, malheureusement.
Bien sûr que ça se passe, mais nous le dénonçons depuis toujours. Et justement, c'est en restant dans ce flou juridique, parce que c'est un flou juridique, quand même, vous voulez pénaliser un client d'une personne prostituée, il va falloir le prendre en flagrant délit. Bon, ben, je vous laisse imaginer les scènes.
Non, mais tout ça, c'est une impossible. Farce. C'est une farce.
Oui,
totale.
C'est une farce. C'est bien sûr.
Il y a une hypocrisie autour de tout ça qui est scandaleuse. Hein. J'ai envie de vous dire que finalement, personne ne s'occupe.
Personne ne s'occupe de ce sujet, mais ça ne date pas d'aujourd'hui.
Porte
Dauphine, donc il y a un moment donné.
Porte Dauphine, on continue à avoir de la prostitution masculine. Hein, il suffit de passer à cette heure-là à Porte Dauphine et on a de jeunes garçons qui se prostituent. Ça a toujours existé à Paris. Alors, je ne connais pas les autres villes puisque moi, je suis parisien et je passe en moto.
Dans toutes les villes que vous avez
et ça n'a jamais bougé d'un iota. Jamais.
Non. Mais ça ne bougera pas plus puisque vous allez. Alors certaines associations vont donc dire que la prostitution s'est développée sur Internet. En titre personnel,
non, ça pourrait bouger.
Engagé. Non, ça a évolué. C'est-à-dire qu'on a encore plus de prostitution en France aujourd'hui. J'aimerais
On a sûrement beaucoup plus de prostitution avec les réseaux sociaux. Ça c'est clair.
Ah mais bien sûr que oui. Et puis en plus, alors allez savoir où commence la prostitution, où se termine la prostitution aussi, puisque voilà aujourd'hui vous avez cette. Mais parce que c'est accès aux mineurs. Aujourd'hui, vous les avez dans la rue, vous les avez sur Internet, vous les avez à tout âge et ça ne gêne personne. Vous avez dans les faits divers tous les jours une agression sur personnes prostituées de la rue de par un client. C'est tous les jours. Vanessa Campos, pour vous le rappeler, qui a été assassinée, égorgée, permettez-moi de vous dire, par son client au Bois de Vincennes l'an passé. Voilà, cette agressivité que vous voyez au quotidien sur les personnes prostituées, c'est parce qu'elles ne sont pas protégées. Elles ne sont pas protégées. Et ce n'est pas en les laissant visibles au Bois de Boulogne que vous allez résoudre le problème non plus.
Alors que donc, faire,
voilà.
J'en reviens là, Jimmy. Vous évoquez les Eurocenters, vous évoquez les bordels en Espagne. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas une situation un peu plus sous contrôle dans ces pays-là?
Alors, je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez me dire.
Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand... j'ai fait un film là-dessus. Aujourd'hui, quand il y a des centres, en tout cas des zéro-centeurs, des bars où il y a plein de filles, il y a un contrôle sanitaire qui est fait régulièrement. Il y a
Alors ça, je n'y crois pas forcément, parce que je fréquente ces lieux, donc effectivement...
Moi, je ne les fréquente pas, mais quand j'ai rencontré des souteneurs, enfin en tout cas des patrons de ces établissements, il y a un système de location des chambres, enfin, il y a tout un système, en tout cas officiel. Alors, peut-être me suis fait avoir, hein, mais sur plusieurs établissements, c'est ce que j'ai vu, constaté, et à travers la parole de ces personnes, en tout cas, il y avait une amélioration de leurs conditions de vie et de leur statut, en fait. C'était une vraie distance mise entre la rue, bien évidemment, mais entre des souteneurs, des macros hein, potentiels, même si, bien évidemment, j'ai tout de même senti qu'il y avait certaines filles, notamment des filles de l'Est, qui étaient déposées par des voitures conduites par des hommes. Et je pense que le côté petit macro qui amène les filles dans un pays comme l'Espagne ou l'Allemagne continue d'exister. Mais est-ce que finalement, parce qu'il faut bien que vous preniez quelque chose, qu'est-ce que vous prenez en fait? Est-ce que vous êtes pour la légalisation finalement l'ouverture d'établissements comme ceux-là qui sont finalement des établissements où il peut y avoir des contrôles à tout moment et où en fait il y a un statut officiel de ces travailleurs du sexe?
Alors moi je suis pour une ouverture de débat déjà, ce qui pour l'instant n'existe pas, malgré que l'Assemblée nationale ait créé un groupe d'études sur la prostitution en décembre dernier, et je me réjouis que ce soit une femme qui soit présidente de ce groupe d'études, qui est donc Anaïs Sabatini, une députée des Pyrénées-Orientales, et qui elle aussi d'ailleurs dénonce que la pénalisation de la prostitution n'aura pas d'effet positif sur les personnes concernées. Moi je suis bien évidemment, mais bien sûr que je ne suis pas pour l'abolition, je vous le répète, la prostitution existe, Tout le monde le sait, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui.
Et quand on parle du plus vieux métier du monde, vous êtes,
non,
vous êtes
vraiment... Métier, je...
Oui, notamment, vous voilà, voyez ce que je veux dire. La prostitution a toujours existé, elle existera toujours.
Elle existera toujours. Non, moi je ne suis pas pour qu'on la promulgue, je ne suis pas pour qu'on la valorise, parce que, je vous le répète encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun enfant souhaite que sa maman fasse la pute.
Bien évidemment.
Quelque, voilà, hein. Le mot pute reste une injure, et il est pour moi impensable qu'une femme puisse dire « je suis une pute » et fière d'être une pute. C'est quelque chose qui est compliqué. Donc, voilà. Après, le travail sexuel en soi, il existe. Il y a des femmes professionnelles et des hommes aussi. Ça existe et ça existera toujours. Je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais si ces personnes sont absolument consenties, mais elles ne le sont pas plus
dans
un lieu comme un bordel.
Je ne vous pose pas de questions sur ces personnes qui s'assument et qui travaillent comme libérales, qui payent des impôts. Moi, je vous parle de toutes ces jeunes qui, finalement, sont dans la nature. Toutes ces jeunes et ces jeunes garçons aussi, et jeunes et moins jeunes, hein, des personnes de 30 ans qui finalement font cette activité et vivent cette activité, mais sont toujours finalement en danger.
Ils sont toujours en danger. Et puis, moi, je ne suis pas non plus pour que toutes ces personnes-là qui se prostituent aujourd'hui puissent poursuivre une activité de prostitution dans un lieu clos. Moi, je suis vraiment axé sur le fait qu'on puisse proposer en France un parcours de sortie de prostitution qui permet à tout le monde de sortir décemment et sans aucun risque de récidive ou de revenir en arrière. Moi, je connais beaucoup de personnes prostituées qui aimeraient s'en sortir, mais qui malheureusement sont victimes de toutes les lois qui entravent aussi au droit au logement des personnes prostituées, pour vous le rappeler qu'elles n'ont pas le droit au logement, hein. Sinon c'est considéré comme du proxénétisme. Donc en fait c'est un ensemble qu'il faut revoir, il faut revoir ça, mais je l'ai dit il y a 15 ans, il y a 10 ans, je le répète chaque année dans toute la presse, c'est en légalisant la prostitution et en encadrant, parce que je suis un réglementariste, c'est ce que vous vouliez entendre, je ne suis pas un abolitionniste, je ne suis pas un prostituteur, mais je suis un réglementariste. Et donc, si on légifère sur la prostitution, on arrivera à réduire la traite d'êtres humains de 85%, et j'en suis certain. Sans prendre exemple sur d'autres pays, il y a des pays où il n'y a pas de bordel. Voilà, la Suède, elle est prohibitionniste. Au demeurant, ça ne fonctionne pas plus non plus, puisque la prostitution existe aussi. Donc, nous, en tant que pays du droit de l'homme, les droits de l'homme, nous devons nous donner l'exemple. La prostitution, ce n'est pas un jeu. La prostitution, ce n'est pas avec quelque chose avec un oiseau. Il y a des victimes. Je rappelle qu'il y a des enfants derrière, puisque vous ne parlez jamais des enfants, des personnes prostituées qui subissent. Vous vous rendez compte pour un enfant, de savoir que sa mère est au bois de Boulogne le soir. C'est quelque chose qui marque à vie. Donc, il va bien falloir trouver une solution. On ne peut pas rester dans ce flou juridique. On ne peut pas non plus rester en continuant et en passant devant des personnes prostituées sans rien faire.
C'était en tout cas votre appel ce soir et votre cri d'alarme sur la situation
de ces personnes. Je veux que la prostitution devienne un sujet politique, hein, qu'on légifère sur ce sujet, parce que ça nous concerne toutes et tous. Et qu'il y a des enfants derrière qui aujourd'hui banalisent la prostitution sur le net, et c'est insoutenable. Voilà, on doit reconnaître l'activité en tant que telle, et la prostitution doit rester quelque chose à combattre d'une manière ou d'une autre.
Rappelez-moi le nom de la députée qui défend le droit des travailleurs du sexe.
Alors non, il n'y a pas de députée qui défend les droits du travailleur du sexe.
Non, mais vous m'avez parlé d'une députée tout à l'heure.
Du groupe d'études, donc un groupe d'études qui a été créé à l'Assemblée nationale en décembre 2022, qui aujourd'hui est présidé par la députée Anaïs Sabatini.
Très bien, Anaïs Sabatini. Voilà. Peut-être que le salut de toutes ces personnes viendra par Madame la députée, parce que tant que les politiques... Ouais, en tout cas, c'est par les politiques que ça arrivera, et sûrement ni par vous ni par moi, mon cher Jimmy. J'espère en tout cas que vous avez pu vous exprimer comme vous le vouliez. Merci pour votre appel ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, bon courage pour le combat qui est le vôtre. Et espérons que cette situation évolue, bien évidemment. Merci, Jimmy. Bonsoir.
Merci à vous, Olivier. Bonne soirée.
Au revoir.
Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h45 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39 21 ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot « nuit » écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous accueillons Laurence maintenant, 39 21. Bonsoir Laurence.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Oui.
D'où nous appelez-vous, Laurence ?
De Bretagne, toujours.
De Bretagne. Vous dites toujours parce que nous nous sommes parlé. Vous allez.
Oui, en février 2021.
D'accord. Et quel âge avez-vous, Laurence ?
J'ai 64 ans.
D'accord. Alors, rappelez-nous, puisque ce soir, sans doute, des auditeurs et des auditrices n'étaient peut-être pas là le soir où nous avons échangé. Rappelez-nous dans quel cadre nous avons échangé.
Dans un cadre où je vous racontais un petit peu mon parcours que j'avais mis, j'avais fini par, on va dire, accoucher dans un livre, où j'avais, bon, depuis toute petite, vécu des choses assez difficiles, et où j'avais petit à petit réussi à, je dirais, à mettre de la lumière dans tout ça, et en tout cas à prendre des choses autrement, c'est-à-dire à pas garder de rancœur ou de. Il y avait eu surtout que je crois que je vous l'avais raconté ce soir-là. Je m'étais retrouvée à 21 ans, donc ma mère était partie, j'avais 18 ans. Et en fait, j'ai eu un accident en débarroulant devant une église à Melun. Et en fait, je suis passée de l'autre côté un bref instant et j'ai reçu plein d'amour, quoi. Et là, moi qui étais complètement fermée depuis la mort de ma mère à tout ce qui était religieux, enfin bref, quoi. Ça a été le déclenchement de me dire, bon, il y a sûrement quelque chose puisqu'on m'a protégée, en fait. On m'a évité, j'avais débarroulé, j'avais la tête qui pendait au bord du trottoir et il y avait la roue du car qui arrivait. J'ai vraiment clairement dit, au fond de moi, je vais partir, quoi. Et puis là, il y a eu. Le temps s'est complètement arrêté. Et j'ai eu comme deux mains ou deux raies de lumière qui m'ont fait tourner la tête. Et la roue est passée et je me suis réveillée. Et c'est un événement qui marque à vie, ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a imaginé, c'est quelque chose qu'on a vécu, quoi. Et après, dans toutes les difficultés que j'ai eues, puisque j'ai dû vous dire. J'ai été aussi malmenée quand j'étais jeune par un père un peu violent. J'ai eu des attouchements. Ensuite, j'ai eu deux unions qui ont été la deuxième beaucoup plus heureuse. Mais j'ai eu trois enfants et trois gros coups durs. Un fils qui a eu un cancer à 18 ans, une fille qui a été accidentée grièvement en 2009. Et avant ça, j'ai perdu une petite fille à 7 jours. Et malgré toutes ces épreuves, je suis quelqu'un avec plein d'amour dans le cœur, quoi. J'ai pardonné à mon père, j'ai fait un vrai chemin de paix. Alors, je dis pas que c'est le chemin de tout le monde, hein. C'est mon choix. Mais en fait, ça m'a. Ce témoignage-là, d'abord, j'ai oublié, je voulais vous remercier. Parce que, après vous avoir parlé, même si c'était émouvant, ça m'a fait un bien fou. J'ai envoyé le podcast à des amis à qui ça a fait énormément de bien. Donc, merci Olivier pour ce que vous faites, parce que vous permettez aux gens de s'exprimer, et moi, je trouve que c'est un cadeau. Ce que vous ne savez pas, c'est que deux jours après, j'avais écrit un livre. En fait, j'avais fait une rencontre il y a plus de 30 ans avec une dame qui m'avait, on va dire, tiré les cartes. Bon, ce n'était pas mon univers, mais elle m'avait mis la puce à l'oreille en me disant... vous devriez être à ma place, vous avez des dons, Laurence, vous vous en servez pas. Je lui avais dit gentiment, écoutez, je me vois vraiment pas faire ça, c'est pas mon truc. Puis bon, de fil en aiguille, on avait sympathisé, elle m'avait montré comment faire, mais j'arrivais pas du tout à me mettre dedans. Puis un beau jour, j'ai été invitée chez une amie et je lui ai dit en rigolant, elle avait un jeu de tarot, je lui ai dit, tiens, tu vas voir, je vais tirer les cartes. Et là, il s'est passé un truc bizarre, c'est que les mots sont venus, non pas que j'étais dans un futur ou dans quoi que ce soit, mais j'étais dans le lâcher-prise total. Et puis du coup, je m'y suis mise petit à petit, et c'est un outil qui m'a aidée quand j'ai eu des grosses épreuves avec mes enfants. J'ai enlevé le côté voyant, je me suis rendu compte que c'était un outil, ça restait un outil, et pas autre chose. Ça m'aidait intérieurement à faire sortir, c'était un, on va dire, un bon, l'équivalent d'un bon psy, quoi. Mmh. Et j'ai accepté cette auto-intériorisation, même quand ce n'était pas toujours facile. Et ça m'a donné confiance en moi. Bon, après, il y a eu des belles rencontres et des thérapeutes que j'ai côtoyés. Et un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu n'écris pas ta façon de voir la vie ? Je faisais des petits ateliers, j'animais, je mettais les choses en scène. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Et mon fils m'a dit, mais maman, tu es une raconteuse d'histoire, tu t'en fiches de ce qu'ont écrit les autres, raconte une histoire. Et donc, quand je vous avais eu, j'avais envoyé mon livre. Et deux jours après qu'on se soit vu, ça m'a mis dans un sentiment de bien-être. Mon deuxième livre a été édité, en fait, très rapidement. Et deux jours après vous avoir eu, j'ai eu une dame qui m'a appelée, une rédactrice en chef, et qui m'a dit « Votre livre autour du tarot nous intéresse, on veut vous éditer ». J'ai trouvé, j'y croyais même pas d'ailleurs, et j'ai trouvé chouette que peu de temps après qu'on se soit parlé, comme on s'était parlé, je sais pas, il y avait un petit clin d'œil de la vie, je fais souvent attention à ça, quoi. Et donc, je me suis dit, mais la rencontre avec Olivier, l'échange qu'on a eu, m'a fait énormément de bien, quoi. Et je souhaite aux gens qui vous entendent qu'ils n'hésitent surtout pas à appeler et à parler avec vous, parce que c'est une libre antenne et vous parlez de tout, quoi.
Ouais, on essaye, mais je suis ravi d'entendre que les choses se sont débloquées. Alors, à savoir si c'est grâce à ça, c'est peut-être grâce à vous en premier. Vous avez décidé de vous raconter ce soir-là. Et vous savez, moi, je crois beaucoup au fait de débloquer des choses lorsqu'on a le courage de se raconter. Hein, parce que c'est pas facile, même à la radio. À la télé, bon, on nous voit.
Je me souviens d'avoir pleuré et tout ça, mais bien sûr, parce que c'est des choses qui, au contraire, ont fait partie de ma vie. Et peut-être que ce que je suis aujourd'hui, souvent, j'attire à moi des gens et je fais du bien autour de moi, chose que vous m'aviez dite et qui est très vraie. Parfois, sans m'en rendre compte, et quelques temps après, on me dit des choses, je dis « Ah bon ?» Mais parce que les épreuves, elles nous aident aussi à avancer, à devenir au plus près de qui on est vraiment. Mmh. Moi, je crois que c'est la leçon. Je ne sais pas si on peut dire leçon, mais de ce que je retire de tout ce que j'ai vécu. Et oui, ça m'a fait du bien d'échanger avec vous, ça, c'est sûr. Et vraiment, c'est un beau cadeau de la vie. Après, c'est peut-être une coïncidence, mais ça a créé une énergie... quelque chose de très positif derrière, de léger dans mon cœur. Je me suis dit, quand on est, on a cette énergie-là, en fait, oui, les choses se produisent, quoi.
En tout cas, ça peut se produire, oui, vous avez raison. Vous avez senti que ça débloquait quelque chose en vous, déjà ?
Ah oui. Parler intimement comme ça. Vous savez, écrire son livre, le premier que j'ai écrit... qui est sur Amazon, c'était moi face à moi. Après un moment d'angoisse avant qu'il soit publié, j'ai dû chercher 10 éditeurs et puis j'en ai pas trouvé. Mmh. Puis j'ai pas forcément insisté non plus, il aurait pu être édité. Il y a une différence entre vous parler comme on l'a fait ce soir-là et échanger. Ça veut dire c'est aussi encore une mise à nu, c'est une énergie qui se dégage. Je suis quelqu'un aussi d'assez pudique, en fait. Donc, ça fait du bien aussi d'avoir une oreille attentive, quelqu'un qui vous écoute. C'est complètement différent de l'exercice de l'écriture, quoi. Mmh. Où on est face à soi. Très bien. Mais par contre, ce que je peux dire à ceux qui écoutent, c'est que vider son sac en écrivant, même si on n'est pas forcément publié, on ne sait pas. C'est un très bon exercice, quoi.
Oui, et puis écrire ensuite, c'est un très bon exercice aussi.
Oui. Après, le livre sur le tarot, j'ai tellement vécu d'expériences douloureuses, magnifiques, etc. J'en ai fait... c'est un outil qui m'a aidée. Je me suis dit, mais je vais raconter une histoire. Je vais me mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît rien. Et comment est-ce qu'on peut... améliorer, transformer sa vie, c'est pas toujours de la faute des autres, quoi. C'est apprendre à mieux se connaître et puis à savoir qui l'on est petit à petit en essayant pas de se voiler la face, quoi. Après, en fonction de ce qu'il est possible de faire, on a tous vécu des souffrances dans nos vies, mais pour moi, le pardon est une chose essentielle, même si la vie n'est pas finie et qu'il y a des moments qui sont parfois plus difficiles que d'autres. Et puis vraiment avoir confiance en cette force d'amour qu'on a en nous, quoi. C'est mon petit message du soir.
Je partage et complètement.
Ouais, et d'avoir pu surtout se parler. Et puis, oui, ça m'a fait réellement du bien. Ça, c'est comme si c'était... Vous posiez quelque chose, comme s'il y avait un... Au-delà du livre, parce que il n'y a pas eu de dédicace comme celui que j'ai écrit là et qui est édité. Je posais ça devant quelqu'un que je ne voyais pas, mais qui était très présent. Et oui, ça m'a fait... Je crois que j'ai vu quelqu'un il y a très longtemps qui était un psy particulier, vraiment chouette, Étienne. Mais après, les épreuves se sont un peu enchaînées. Et je crois que vous avez été en fait la seule personne avec qui j'ai pu parler de ça, quoi, vraiment. Redire un petit peu en accéléré tout ce qui m'était arrivé.
Je me souviens que vous m'aviez parlé de vos trois enfants. Hein.
Oui. Absolument, j'ai perdu mon troisième enfant, une petite fille à 7 jours qui a été opérée d'une malformation cardiaque et opérée parce qu'elle était très éveillée. Et pour les trois, quand j'ai eu cet accident à 21 ans, où j'étais fermée avec tout ce qui pouvait être Dieu, religion, etc., puisque je perds sa mère, j'étais la dernière de la famille. À 18 ans, j'étais pas prête, quoi. C'était très dur, surtout je l'avais connue tout le temps malade. Elle avait la sclérose en plaques. Et je me suis dit, bon, ok, je comprends pas ce qui se passe de l'autre côté, mais il y a une énergie d'amour colossale qui m'a sauvé la vie. Bon, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Ça m'arrange pas du tout, mais je vais essayer de faire quelque chose.
Non, mais si, vous allez voir, vous allez vous en arranger.
Oui, oui, mais je m'en suis arrangée. Et en fait, à chaque fois, quand ma fille, avant qu'elle parte, sur la table d'opération, là, je me suis alignée dans ma chambre de maternité. J'ai dit, ok, si vraiment Dieu existe ou une force d'amour, j'ai vidé mon sac, j'ai dit, cet enfant, j'ai deux enfants en bonne santé, si elle doit être réopérée, comme on me l'avait dit, tous les 18 mois pour... En fait, elle avait un bout d'aorte qui lui manquait, une artère pulmonaire trop développée. Donc, ça veut dire qu'elle aurait un cerclage permanent. Et je dis, mais ça va être un enfer, sa vie, quoi. Donc, je demande la grâce. Si elle doit vivre et qu'elle peut vivre en bonne santé, qu'elle vive. Et si jamais c'est trop lourd pour elle, que Dieu, fasse les choses, j'accepte, quoi. Et quand j'ai appris sa mort, j'ai vécu toute l'opération et surtout son réveil, que je me suis mise à trembler, à avoir froid. Et en fait, à une heure, je me suis endormie et à une heure, elle est morte. Et donc le matin, quand son père est venu me dire, je savais déjà qu'elle était morte, quoi. Et j'ai eu toute la souffrance d'une maman qui perd un enfant. Mais le reste, je n'ai jamais regretté, j'ai accepté, quoi. Quand mon fils a eu son cancer, je suis montée dans ma chambre, c'est là où j'ai pris mon tarot, je dis, écoute Dieu, tu es toujours là dans les moments cruciaux de ma vie, maintenant tu vas me dire, est-ce que mon fils va s'en sortir? C'est pas le moment de te débiner, tu vas me dire la vérité. Bon, ça peut paraître puéril, mais c'était ma façon à moi de faire. Et j'ai tiré deux cartes, j'ai dit, il va s'en sortir, mais ça va pas être facile. Et là, j'ai fait la locomotive jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à temps qu'il prenne le relais, et en 9 mois, il a eu une guérison miraculeuse. Et le professeur à Rennes m'a dit, mais bon, vous le devez à votre ténacité. Et ma fille, ça a été pareil. Quand elle a eu ce grave accident, où elle a été opérée du dos, on lui a mis une barre en fer, elle avait deux vertèbres cassées. Je me suis alignée chez moi, j'ai dit à mon patron, je ne peux pas travailler aujourd'hui. Et j'ai mis des bougies et j'ai dit la même chose. J'ai refait une prière et j'ai dit voilà, je demande la grâce pour ma fille. Et j'ai été entendue, ça n'a pas été simple.
Parfait, mais je vais être obligée de vous couper parce que c'est l'heure du journal, ma chère Laurence. Donc on se retrouve dans quelques instants, d'accord ? À tout de suite.
Pas de problème, oui, excusez-moi.
Minuit passé de 5 minutes, et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes sur Europe 1, et vous y êtes bien sur Europe 1, et vous êtes bien aussi dans votre espace à vous, c'est la libre antenne d'Europe 1, 7 jours sur 7, le week-end avec Yann Moix, la semaine avec nous. Nous sommes heureux de vous accueillir, car vous êtes bienvenue chez vous. Nous sommes avec Laurence avec qui nous faisons le point. 2 ans après son passage sur cette libre antenne, on peut dire, Laurence, que les choses vont plutôt bien. Vous avez transformé vraiment l'essai, je dirais, le fait d'avoir déposé tout un tas de choses d'abord dans cette libre antenne et puis ensuite dans ce livre, vous a fait ouvrir pas mal de portes, j'ai l'impression.
Oui. Enfin, en tout cas, ça m'a apaisé le cœur et puis je fais mon petit bonhomme de chemin. Il y a des moments de vie qui sont plus délicats, mais c'est comme si j'avais plus d'outils. J'ai mûri, j'ai accepté les choses. Je suis pas du tout aujourd'hui dans la rancœur, la tristesse, me dire que j'ai pas eu de chance dans la vie. Au contraire, je considère que j'ai eu beaucoup de chance, quoi, pour avoir traversé tout ce que j'ai traversé. Et avoir que mes prières aient été exaucées, en tout cas la façon dont je les ai faites, et que mes enfants soient en bonne santé, oui, j'ai eu beaucoup de chance, quoi.
Bah écoutez, vous nous voyez vraiment ravis pour
ça
vous.
Ça peut amener une touche, voilà, d'espoir aussi pour ceux qui vivent autant de souffrance et qui. Je me souviens d'une dame que j'ai rencontrée en dédicace là pour mon livre L'aventure du battleur. Et elle venait de, je ne sais pas, de Roumanie, quelque chose. C'est une dame qui avait beaucoup souffert. Et on s'est vraiment prise dans les bras, quoi. Et ces rencontres-là, elles sont magiques, quoi. Elle m'a dit merci d'être là sur ma route. Et je lui ai dit merci aussi d'être sur ma route, quoi. Ça nous permet de rester humains, quoi. De savoir qu'on a aussi... J'ai une dame qui m'a dit, mais vous êtes une sainte. Je lui ai dit, mais pas du tout, si vous saviez. Non, j'ai... Comme tout le monde, des fois, j'ai du mal à me lever le matin, je ronchonne, Non, je suis humaine, quoi, voilà. Une humaine qui a vécu beaucoup de choses, mais qui en a peut-être tiré une force, ça, c'est sûr.
Écoutez, tant mieux, je suis ravi d'entendre tout ça, ce n'est que vraiment que du positif, donc ça prouve que lorsque...
Oui, c'était important pour moi, je trouvais bien de vous donner des nouvelles, et puis... de vous dire merci, voilà, c'est au moins c'est important, ça vous met une petite joie dans le cœur en vous disant que ben voilà, c'est aussi ce que vous apportez, quoi.
Écoutez, je suis ravi, en tout cas, je suis ravi d'apporter tout ça. J'ai toujours du, voilà, pardonnez-moi, j'ai toujours du mal à évaluer, hein, tout ça, c'est normal.
Mais, justement, je pense que si les gens qui ont vécu ces moments-là, quand ils le peuvent, bien sûr, vous font un petit coucou sans prendre trop votre temps et puis laisser la place aux autres. Mais c'est important aussi que vous puissiez entendre. Je comprends très bien ce que vous ressentez parce que c'est beaucoup plus facile des fois à donner que de recevoir.
Mmh, exactement. Merci, Laurence, pour votre
merci
message.
Merci beaucoup, Olivier, et puis à tout le monde.
Et
merci.
Puis, on vous souhaite bon vent alors dans cette vie.
Oui, tout à fait.
On vous embrasse.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Aussi.
On accueille Bouchra maintenant au 3921. Bonsoir, Bouchra.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Bouchra ? De quelle région ?
De la Normandie.
D'accord. Et quel âge avez-vous ?
Oh, bah, ça va.
Ça va. Bon, très bien. Qu'est-ce qui vous amène, Bouchra ? Dites-moi.
Bah, c'est mon fils qui m'amène chez vous.
D'accord. Quel âge a-t-il ?
Il a 14.
14 ans. Et alors, que se passe-t-il ?
Bah, ça ne va pas du tout.
Ça ne va pas du tout, c'est-à-dire ?
n'y a rien qui passe entre nous. C'est agressif, c'est des insultes. Ça ne va pas. Ça ne me plaît pas. Ce qui se passe entre nous, c'est zéro. Il n'y a rien.
Ah. Mmh. Est-ce que le papa n'est pas à la maison ?
Si, si, au contraire, il est à la maison. D'accord. J'aurais aimé qu'il ne soit pas là, enfin, qu'il ne soit pas là, une façon de parler. Ça veut dire, pour moi, un papa positif, il faut qu'il lui dise des choses qui sont bien, qu'il lui dise que ce n'est pas bien ce que tu fais. Et au contraire, il l'encourage, il est heureux, c'est un petit cadeau, ça va se passer. Il faut laisser faire. Je ne sais pas, je ne comprends pas.
Mais qu'est-ce qu'il fait, votre fils ? Dites-moi, qu'est-ce qui tourne mal, en fait ? Il travaille mal à l'école, il est indiscipliné.
Oui.
Oui.
Oui. Oui.
Il ne va pas en cours ?
Bah, quand il veut, enfin, il essaie de se chier les cours régulièrement.
Oui.
Et puis, moi, je ne veux pas ça. Et puis, quand je lui parle, il me dit t'es toujours d'accord avec eux, tu me consultes. Toujours avec l'école et moi, tu me consoles jamais. Je dis, je suis avec la vérité. Tu regardes comment t'en es. Regarde ce que tu fais. Les résultats, ils sont pas bons. T'as pas des bonnes notes. Donc, il faut savoir quand même voir la réalité comme enfin, normal. Mais il veut pas. Il aime pas.
Et il a toujours été comme ça ?
Non. Ça fait 2 ans et il a changé. Il a complètement changé.
Est-ce qu'il y a un événement particulier que vous avez identifié, vous, qui marque le début de son changement ? Est-ce que vous avez noté qu'il s'était passé quelque chose dans sa vie ou dans vos vies, à vous, qui fait qu'il a changé ?
Bah, je ne sais pas. Rien. Enfin, je suis séparée de son papa, ça fait depuis 2016, on va dire.
Oui.
Et puis normalement, c'est moi qui gère tout le temps. C'est moi qui l'a tout le temps. C'est moi qui surveille tout le temps. C'est moi qui lui dis de faire les cours, de tout faire. Enfin, et il était bien, enfin. Et puis depuis, ça fait 2 ans, là, l'année dernière, ça a été catastrophique aussi même. Il sèche les cours, il ne va pas régulièrement. Et puis j'ai décidé de le mettre à l'internat cette année.
Oui.
Le comportement, plus ou moins, ils me disent avec nous, ça va, ça passe. Et les résultats, les notes, je croyais que ça va s'améliorer, que ça va aller mieux. J'ai dit l'internat, que de l'internat, ça veut dire qu'il est toujours à l'école, donc il ne peut pas sécher, il faut qu'il soit là-bas tout le temps. Et bah, parfois, les mercredis, début de l'année, les mercredis, à cause de Corona, il n'y avait pas d'activité. Donc il dit, bon, bah, je rentre à la maison.
Oui.
Et bien, qui dit rentrer à la maison, il reste sur le jeu jusqu'à 1 heure pareil. Et le lendemain, il est fatigué, il n'a pas envie d'y aller. Donc, il ne va pas. C'est chez son père, ça, c'est pas chez moi.
D'accord.
C'est qu'il était chez son père et le système, c'est comme ça. Le rythme de l'école, c'est comme ça. Et puis, c'est pas bien.
Alors, si j'ai bien compris, en fait, vous êtes séparés du père depuis un moment. Mmh. Et il va de temps en temps chez son père.
Oui, normalement, il est comme ça de temps à autre. Enfin, bah, pas beaucoup, mais bon, après, parce qu'avec moi, il a ce qu'il faut. Il me dit, oui, maman, tu me prépares à manger, je suis de près, je fais tout. Et puis après, quand ça ne va pas, quand il sent qu'il est gêné, que tout le temps, je suis derrière lui, fais ça, prends ta douche, fais ça, fais les cours, fais ceci, fais cela. Quand il voit que je suis tout le temps là, il va chez son père.
Et chez son père, donc, on laisse tout faire.
Voilà. Chez son père, il passe aussi.
Mais il est là, le problème. Hein. C'est que si le père...
Ouais,
si le père ne suit pas la même... s'il n'a pas la même volonté que vous de
ouais.
Vous voyez, de lui imposer à 14 ans, il faut les éduquer, hein, les enfants. Donc... Ouais. Autrement, si on leur lâche la bride, ça peut donner n'importe quoi.
Bah, c'est ça. C'est ce que je pense. J'ai peur de son avenir. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Là, il faut qu'il choisisse quelque chose, de faire quelque chose dans sa vie, une formation, je ne sais pas. Elle ne sait pas ce qu'il veut, elle ne sait pas ce qu'il veut faire. Et puis,
bon, il a 14 ans, hein, Bouchra. Donc, oui. Mollo sur, vous voyez, sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, on leur met trop la pression. Hein.
Oui, oui.
Il a 14 ans, il faut le laisser pousser, hein, cet enfant-là.
Oui.
Je parle en termes de pas trop lui mettre la pression sur qu'est-ce que tu veux faire. Parce que je vais vous dire, moi, à 14 ans, je pensais qu'à taper dans un ballon de foot, pardon. Je ne pensais qu'à ça. Aller faire des cabanes dans la forêt avec mes copains. Et je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. C'est ce que je dis souvent à ma fille. Même à, je vais vous dire, à 20 ans, 21 ans, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Il y avait des choses qui me branchaient, mais il y avait des études longues qui correspondaient. Donc, je savais que je n'étais pas quelqu'un de très persévérant. Donc, il me fallait trouver quelque chose qui allait me permettre de faire des études de 2 ans ou 3 ans. Vous voyez ? Donc, et c'est venu vraiment à 22 ans, 23, oui, 22 ans, où j'étais déterminé à faire, à me lancer dans la réalisation, dans le journalisme. Votre fils, il a 14 ans, c'est un bébé encore.
Hein,
donc ça, s'il ne sait pas ce qu'il veut faire, non. Par contre, ce qui est embêtant, et je vais vous dire ce qui va se passer, c'est que là, il a 14 ans et qu'il est en quelle classe ?
Troisième,
oui. Donc c'est la... C'est l'année où on va l'orienter.
Ben, c'est ça.
Et il faut vraiment se battre pour qu'il continue l'école. Hein.
Ben oui.
Qu'il aille en seconde et qu'il aille jusqu'au bac.
Ben, je veux bien. Mais les notes, ça ne me rassure pas. Hein.
Il a quoi comme type de notes ?
Eh ben, il a eu juste la moyenne le premier trimestre.
Ben, déjà, ça va. Ça, c'est bien s'il a eu la moyenne. Ben oui. Ah oui, ça c'est bien, hein. C'est déjà, je vais vous dire, il y a plein d'enfants hein, qui se contentent de la moyenne, qui font ce qu'il faut pour avoir la moyenne. Est-ce qu'il la veut, la moyenne ? Est-ce que vous sentez que c'est un truc qui est important pour lui ?
Je ne sais pas, hein. À mon avis, lui, il fait, c'est parce qu'il faut le faire. Et puis, dans sa tête, c'est autre chose. Donc, c'est le jeu. Lui, le moment qu'il est devant son jeu, c'est son plaisir.
Oui, mais bon, ça, vous savez, ils sont tous pareils à ce niveau-là. Hein. Ils ont,
ils
ont beaucoup, aujourd'hui, les jeux et tout ça. C'est pas obligatoirement... bon, bien évidemment, c'est mieux qu'il fasse du sport.
Le sport, l'année dernière, j'étais inscrit, il y avait le foot, sale, judo, tout ce qu'il veut, enfin, qui essaye de remplir un petit peu son planning. Et qu'il y a toujours quelque chose à faire. Donc, le foot, il ne va plus. Donc, j'achète des habits de foot, ceci, cela, et il ne le fait pas. Le foot sale, il va parfois comme ça parce qu'il y a les copains le soir. Le judo, il ne va plus. Donc, je lui dis, écoute, tu me dis de t'inscrire à des activités sportives. Je t'inscris, je paye, je t'achète des habits, je fais tout. Et fin de compte, il ne va pas. Oh, le judo, il n'y a rien, il n'y a que des petits. Moi, je ne veux pas rester avec des petits. Et puis, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus comme avant. Avant, il était motivé, il aime bien participer au sport, il faisait le vélo, il faisait plein de choses. Mm-hmm. Et alors,
est-ce qu'il a de mauvaises fréquentations ?
Je ne crois pas. Hein.
D'accord.
On est dans un petit village, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
D'accord. Bon, ça, c'est déjà bien. Ça, c'est déjà très bien.
Je crois que c'est surtout c'est le papa. J'aurais aimé qu'on soit sur le même rythme. Je crois que ça aussi, ça le perturbe. Parce que,
et vous n'avez aucune possibilité d'échanger avec le père ? Quelles sont vos relations avec le père aujourd'hui ?
On change, hein. On change, on parle. Et après, il me dit, si je veux, c'est un petit cadeau. Il ne faut pas non plus trop serrer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être qu'il va partir. On ne sait jamais. Je dis, mais non, il ne partira pas. Mais quand même, il faut que tu sois d'accord avec moi. Il me dit oui, puis après, c'est ce qui est dans sa tête.
Le père lui laisse faire tout ce qu'il veut, en fait.
Oui, tout ce qu'il veut. Mm-hmm. Acheter des jeux, rester jusqu'à une heure pareille devant le jeu, c'est ce qu'il veut.
Ouais. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il devenait agressif avec vous. Sous quelle forme ça se passe?
Eh bien, ça se court entre nous. Hein. Par exemple, quand je lui dis « arrête ton jeu, c'est arrête, tu vas pas rester jusqu'à une heure pareil », ben, il me pousse, sort de ma chambre, laisse-moi tranquille. Et voilà, donc,
Il vous pousse?
Ah oui, oui.
Il est enfant unique?
Oui, il est enfant unique.
Oui, donc il n'y a personne et en fait, il est plus fort que vous en plus.
Ah, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. On essaie parfois d'être dans la cuisine, de préparer quelque chose ensemble. Je sais que j'organise des voyages. Parfois, quand c'est l'été, je réserve dans un mobil-hom qu'on soit ensemble. J'essaie toujours de lui faire plaisir, enfin, de vivre normal. Je vois, c'est comme si tout ce que je fais, c'est zéro. Tout ce que je fais, tout ce que je prépare, fin de compte, je vois que c'est moi la méchante. C'est toujours que je suis diligente, que je fais des choses comme ça, qu'il faut que ça soit carré ou je sais pas. Donc, peut-être qu'elle en a marre de ma façon de faire, enfin, mais moi, je crois que je le fais le mieux, mais fin de compte, je vois que c'est zéro. Tout ce que je fais pour lui, c'est zéro, c'est rien.
Oui. Là, le problème, c'est bon, vous l'avez déjà mis en pension, donc ça, déjà,
oui.
Le fait qu'il soit en pension, il est tenu la semaine. Hein,
oui.
Il rentre tous les mercredis ou vous le laissez là maintenant, là-bas? Il rentre plus?
Le mercredi, normalement, il faut que j'envoie un mot au collège. Donc, il me le demande, il me dit maman, je dis ben, il faut que tu restes. Là, finalement, le Covid, il n'y en a plus, donc il y a des activités. Mais la dernière fois, il m'a envoyé un mail qui a le piscine, que tu peux faire autre chose, donc tu peux rester. Bon, mais ça ne me plaît pas ce qu'ils font. Moi, je préfère rentrer chez moi. Qui dit rentrer chez moi, c'est le jeu. Donc,
La pension est loin?
Pas beaucoup, hein. Quasiment une demi-heure, quelque chose comme ça. Le quart, il prend le quart, enfin, je l'ai inscrit.
D'accord, d'accord. Donc, du coup, il prend le quart et oui. Il est en pension jusqu'au vendredi soir, jusqu'au samedi midi?
Oui, jusqu'au vendredi.
Jusqu'au vendredi. Bon, déjà, ça, il ne faut pas que ça change. Hein.
Il
faut
bien.
Vraiment que vous le laissiez en pension. Oui. Maintenant, je lis qu'il a été un peu violent avec vous dans les mots. Hein.
Ah oui. Bah, oui, c'est violent.
C'est arrivé quand, ça? Est-ce que c'est arrivé plusieurs fois?
Bah oui, hein. Quasiment la plupart du temps. La dernière, on était en voyage. On est rentré et il était exclu de collège 3 jours parce qu'il a parlé mal avec un remplaçant de professeur. Je sais pas, il a fait quelque chose qui n'allait pas. Il a dit quelque chose que le directeur il m'a appelé une fois. Il m'a dit, est-ce que vous êtes assis, madame? J'ai dit, oui, pourquoi? J'ai peur, je croyais qu'il va me dire qu'elle a quelque chose de grave, mon fils. Il m'a dit, bah, écoutez, il a dit un mot, comment on peut égorger quelqu'un sans que le sang coule, je sais pas, il a dit
oh là là.
Comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas c'est quoi le sens de mot, le fait qu'il dit ça, qu'est-ce qui s'est passé. Après, il lui a dit non, c'est pas comme ça, il y avait des enfants de quatrième, je sais pas, ils étaient en train de parler d'un sujet ou d'autre. Et puis finalement, il m'a dit, bon, bah, il est exclu. Donc, les 3 jours, quand on est revenu, après les vacances de la Saint-Toussaint, donc il fallait les 3 jours qu'elle reste à la maison.
Oui.
Qui était resté à la maison le jeu. Ben, j'ai dit, ben non, tu ne vas pas jouer. Et finalement, je me rappelle, on avait rendez-vous orthodontique pour ce dont on revenait. Son père nous a amené. Et puis, il commence à me parler mal. Oui, mais tu ne comprends rien. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu es toujours avec eux. Mais tu ne me consultes jamais. Et je lui dis, arrête de me parler comme ça. Et puis finalement, il me dit, ouais, mais tais-toi. Je dis, arrête de me parler comme ça. Après, je dis à son père, il était au blanc, je lui dis, écoute pas, t'entends pas comment il me parle mal. Il me dit, oui, mais toi aussi, t'en rajoutes. Je dis, ah bon? Et je dis, vous savez ce qu'on va faire? Bon, bah, de maman que je suis méchante, je ne suis pas bien, bah, tu vas rester avec ton père. Ouais, ok. Donc après, il m'envoie des messages, je vais récupérer mes PC. Mais je dis, non, tu ne récupères pas. Après, il y avait les 3 jours qu'ils n'étaient pas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, il devait aller au collège. Puis vendredi, jeudi, ça a été férié, puis il fallait qu'il revienne le vendredi. Et puis finalement, j'étais pas à la maison, j'étais au travail. Donc, il a doublé la clé de la maison.
Parlez bien dans votre téléphone, s'il vous plaît, parce que ça coupe.
Ouais, et là ?
Oui, c'est très bien, comme ça.
D'accord. Donc, j'étais pas à la maison, j'étais au travail. Donc, il est rentré chez moi, il a le double. Et il a pris les deux PC, il a pris la tour, il a pris son comment dire, son jeu là.
Oui.
Les habits, les parfums, tout le petit confort, tout ce qui l'intéresse. Et il est parti. Et ben, je suis rentrée le soir chez moi, j'ai trouvé la chambre vide, j'ai pas apprécié. J'ai pas tout apprécié. Et puis, elle est de son père, donc son père, elle est venue avec la voiture, donc ils ont tout déballé. Voilà, il est parti. L'air de dire, c'est moi qui commande, je fais ce que je veux.
Donc, mais alors, il a embarqué ça avec son père ?
Oui, oui. Ouais. Il est venu avec lui et ils ont tout pris. Je n'ai pas du tout apprécié.
Mais bien évidemment, mais le père, il fait n'importe quoi, Ouchra.
Ah, voilà.
Il fait n'importe quoi. Ouais. Est-ce que vous avez de la famille ? Vous me dites que vous voyagez, vous allez au Maroc un peu, non ?
Oui, je vais une fois dans l'année comme ça.
D'accord. Et
il est là-bas et il est content, il est bien.
D'accord. Vous avez de la famille là-bas ?
Oui.
Faut lui dire, vous savez quoi ? Faut lui dire que si ça ne va pas, vous allez l'envoyer 3 mois au Maroc.
Oui, je veux bien.
Vous voyez ?
Je veux bien l'envoyer là-bas.
Ben ouais, mais je pense en plus que c'est franchement un. Il faut lui dire si ça ne va pas, si tu ne travailles pas à l'école, si tu es exclu, si moi, il n'y a pas, tu vois, tu ne vas pas rester à jouer aux jeux vidéo, tu vas aller au Maroc, tu vas travailler avec ma famille là-bas. Il faut lui faire peur un peu.
Ah oui.
Parce que, bon, le problème que vous avez aujourd'hui, hein, c'est que malheureusement, le père est complètement insouciant. Ah, oui. Enfin, il ne voit pas qu'en faisant ça, il lui fait mal, bien évidemment. C'est pas à vous qui fait du mal, bien évidemment. Ça vous embête, vous, ça montre pas l'exemple à son fiston, hein. Il a refait sa vie, le père,
hein?
Il a refait sa vie, il a une autre femme, le père.
Oui, mais il a essayé, il a refait avec une autre dame, et puis ça allait pas, et puis je sais pas, donc il fait ce qu'il veut, mais après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il tourne autour, c'est parce qu'il veut qu'on revienne ensemble, et moi je dis c'est pas possible, parce que quand quelqu'un me fait mal, enfin, ça allait pas, quand ça va pas, donc ça sert à rien. Et je pense aussi, peut-être mon fils, il voit cette image, que le fait qu'elle aimerait bien qu'on revienne ensemble. Parfois aussi, il me dit, maman, papa, il parle de toi, il t'aime, j'ai dit oui, mais c'est pas possible. Je ne peux pas revenir ensemble. Je dis dans ma tête, qu'est-ce qu'il fait ça?
Parce qu'il reviendrait bien avec vous, le père?
Oui, mais moi, je ne veux pas.
Non. Vous savez qu'il n'est pas sérieux, quoi.
C'est quoi? Non, c'est pas bien.
Oui. Non, vous savez, hein, la seule manière de coincer un ado comme ça, qui n'écoute plus, c'est vraiment de le menacer. Le problème, c'est que s'il commence à mal vous parler, à vous insulter, ça veut dire qu'il y a une frontière qui est dépassée depuis un moment, là. Il a dépassé une frontière, plus rien ne lui fait peur, et ça veut dire qu'il ne vous respecte plus. Donc,
c'est ça.
Et visiblement, ça ne lui convient pas d'être que chez son père.
Oui.
Est-ce que ça, vous avez remarqué ça, que c'est au bout d'un moment, est-ce que c'est le père qui en a marre, il vous le ramène, ou est-ce que c'est votre fils qui en a marre d'être chez son père, pour tout un tas de raisons, peut-être qu'il ne fait pas à manger, ou est-ce que votre fils revient chez son père ?
Ben oui, il aimerait bien, hein. Il aimerait bien revenir, mais dans quelles conditions ?
Non, je ne vous parle pas du père, moi, je parle de votre fils.
Non, je parle de fils, d'accord. Oui, je parle de mon fils.
Là,
oui.
Là, il est chez son père maintenant.
Oui.
Et tout le temps. Vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps, là ?
Bah, ça fait 2 mois, hein, depuis que la presse EPC est partie, depuis, il est parti, comme quoi, l'air de dire, c'est moi qui gagne, et puis, on s'en fout, l'air de dire, va te faire, et puis, voilà. C'est dans ce terme-là, ça veut dire,
d'accord,
je veux pas, avec son père, je veux pas qu'il apprenne cette façon de vivre.
Et est-ce que...
C'est moi qui décide, c'est moi qui prends ce que je veux, et bah, il va te faire avoir, enfin, une façon de parler, je m'excuse, c'est comme ça qu'il voit les choses.
Mais est-ce que il vous appelle quand même, il vous donne des nouvelles?
Il m'envoie des messages, des trucs comme ça. Est-ce que je peux récupérer mon costume? Et la dernière fois, enfin l'autre jour, là, bah, je l'ai inscrit normalement pour un voyage à Londres. Et du coup, il m'envoie un SMS. Maman, est-ce que tu peux envoyer mon numéro de passeport à prof de l'anglais, ceci, cela, des choses comme ça.
Ah oui, d'accord, il vit chez son père maintenant en permanence.
Oui. Oui, oui, il veut pas venir. Enfin, il veut pas venir. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, moi, j'attends qu'il m'explique pourquoi il a fait ça, qu'il dit pardon. Mais son père, Dieu pauvre, on s'en fout. Hein.
Oui, vraiment. Donc
c'est ça le problème.
C'est mal embarqué, hein, cette histoire, oui, hein,
oui.
Ma pauvre.
Hein. Bah oui. Ah oui, 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 oui. C'est son père, normalement, qui lui parle, qui lui dit, c'est nous les adultes, c'est nous qui décident. Donc, c'est pour ton avenir. Il faut que tu nous écoutes, enfin. Moi, je dis rien. Je dis rien pour son père. Je lui dis, ton père, c'est ton père. Son caractère, c'est son caractère. On n'est pas pareil. Et puis, mais il faut que tu nous respectes, nous deux. On est tes parents.
Mm-hmm.
Moi, je vois les choses comme ça. Mais après, son père, je n'ai pas apprécié ce qu'ils ont fait. C'est
non, mais ça ne va pas du tout, ce qu'ils ont fait.
Oui.
Là, il a nié votre autorité. Il a validé d'emmener son fils prendre ses jeux et tout,
ouais,
ça,
ouais.
C'est un comportement d'adolescent, hein, de la part du père. C'est inconscient.
Oui. Ouais.
Il est complètement,
oui,
inconscient, cet homme-là.
Oui.
Malheureusement, Bouchra, à part vous tourner vers un juge pour remettre un cadre, vous voyez, un cadre de vie à votre fils,
ouais,
parce que vous en avez la garde, comment ça se passe, en fait,
quand vous êtes
séparé du père?
Oui. Normalement, c'est moi qui ai la garde. Donc, il le voit un demi des vacances chez moi, chez lui. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il vient tout le temps. Il est tout le temps chez moi. Et puis, chaque fois qu'il va aller chez son père, il n'y a pas de souci. Et puis, là, je vais à l'assistante sociale. Je lui raconte ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qu'elle vous dit, l'assistante sociale?
Il m'a dit, il faut que je vous voie, vous trois. Il m'a donné rendez-vous. J'étais, j'attendais.
Ils ne sont pas venus.
Uh-huh. Donc, elle m'a dit, il faut que je vous voie vos trois.
D'accord.
Je peux pas...
Okay. Moi, je vais vous donner un conseil, Bouchra.
Oui.
Et
oui,
c'est, à mon avis, malheureusement, le seul recours que vous aviez. À partir du moment où vous avez affaire à un père qui est totalement inconscient, qu'il ne respecte pas votre volonté de bien éduquer votre fils, il faut que vous fassiez valoir vos droits parentaux et le cadre qui a été décidé à l'époque de votre séparation avec le fils, du cadre légal de la garde de cet enfant.
D'accord.
Ça veut dire qu'il faut que vous le fassiez revenir chez vous. Alors, dans un premier temps, le père, vous allez le prévenir que s'il ne revient pas dans les jours qui viennent, vous allez appeler le juge pour lui dire que pour non-présentation d'enfant.
D'accord.
Parce que quand vous vous êtes séparés, il y a dû y avoir, de la part du juge des affaires familiales, du juge aux affaires familiales, pardon, une décision de prise qui vous attribuait la garde de ce petit, de votre fils, une semaine, et sans doute le père un week-end sur deux et un mercredi par semaine. C'était ça, le cadre?
Ouais.
Bon. Il se trouve que ça fait 2 mois que vous avez été très gentille, très patiente, mais que ça ne doit absolument pas se dérouler comme ça. Vous vous rendez compte que le père, il cautionne les conneries de son fils?
Oui.
Alors, il faut que vous en appeliez à la loi. Puisque la loi vous a... Parce que quand il est parti, le père, est-ce qu'il s'est occupé de cet enfant?
Rien
du tout. Et il est réapparu au bout de combien de temps dans vos vies, à tous les deux?
Comme ça, d'un seul coup, comme par hasard, il est là. En ce moment que vraiment, il faut qu'il soit là pour le positif, qu'il soit là pour le guider, on va dire. C'est pas pour le détruire. Moi, je crois qu'il est en train de le détruire. Quand il était petit, c'est moi qui étais tout le temps là. Et comme par hasard, là, ça fait 2 ans, il réapparaît. Il attend qu'il soit grand, qu'il n'y a plus les couches à faire, qu'il n'y a plus la soupe à préparer, enfin,
oui,
comme un bébé. Et maintenant, il est grand et il récupère son fils pour lui apprendre le mot de vivre. Vivre comme un...
C'est pénible. Non, mais c'est pénible. Voilà. Moi, je pense vraiment que vous devez, aujourd'hui... Vous travaillez, hein. Je crois que vous travaillez beaucoup,
oui,
en,
oui,
plus. Hein.
Oui, oui, oui.
Donc, il faut que vous preniez un avocat.
Oui.
Hein, vous renseignez bien de ce que ça peut coûter. Si ça, parce que ça, oui, un truc comme ça, ça ne coûte pas des milliers des cents. Hein. Ça peut vous coûter, allez, 500, 600 euros.
Oui.
Qui s'occupe de faire respecter le cadre de la garde de cet enfant. Et si il ne respecte pas le père, il va avoir des problèmes.
Ouais.
Et à mon avis, quand il va voir que ça lui chauffe aux fesses, il va vite ramener le petit à la maison et il exercera ses droits de garde un week-end sur deux et le mercredi. Votre seul recours, c'est ça, Mouchra.
D'accord.
Parce que si votre fils, vous me dites que ça fait 2 mois qu'il est parti, en plus en volant ses affaires et en allant s'installer chez son père, vous vous rendez compte à 14 ans l'exemple qu'il donne à son fils ? Ça, je vais vous dire, auprès d'un juge, ça va très très mal passer.
Ouais.
Ben oui.
D'accord.
C'est votre seul moyen, vraiment.
D'accord.
Vous m'avez bien compris ?
Oui, oui, j'ai bien compris. D'accord.
Parce que si vous ne faites rien, là, si vous attendez, il ne va rien se passer. Je suppose que vous avez essayé ça.
Oui.
Vous lui avez écrit qu'il fallait qu'il revienne à la maison et tout ça ?
Pardon ?
Vous lui avez écrit que vous vouliez qu'il revienne à la maison ? Est-ce qu'il y a des traces de tout ça ?
De qu'il revienne à la maison ?
Oui, le fils. Votre fils,
oui.
Est-ce que vous lui avez dit,
oui,
il faut que tu reviennes à la maison et tu dois revenir à la maison ?
J'attends qu'il vienne, mais il ne vient pas.
Oui, mais il faut, là, que vous écriviez d'abord cette semaine, tous les jours, il faut que tu reviennes à la maison pour qu'il y ait des traces, vous comprenez ?
D'accord, oui, oui.
Vous voyez ce que je veux dire ? Textos, il faut dire, voilà, ça fait 2 mois que tu dois être à la maison, ça fait 2 mois que tu es parti de la maison à 14 ans, que ton père te donne, ne respecte pas tout ça. Enfin, il faut que vous écriviez des textos pour que quand vous allez les montrer dans quelques semaines au juge, qu'il voit que vous avez tenté de remettre les choses en ordre.
Oui.
Que ça vous serve de preuve.
Oui, oui, je comprends. Oui. D'accord.
Okay. Bon, voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Je pense que malheureusement, c'est votre seule possibilité, ma chère Mouchra. D'accord ?
D'accord.
Bon courage à vous. Et n'hésitez pas à me rappeler pour me donner des nouvelles, d'accord ?
Merci, c'est très gentil. Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir, merci.
On accueille Sandrine maintenant au 39-21. Bonsoir, Sandrine.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Sandrine ?
De Châtel-Audrin.
De ? Pardon ?
Châtel-Audrin.
Châtel-Audrin. Où est-ce que c'est, ça, Châtel-Audrin ?
C'est entre Saint-Brieuc et Guingamp, en Bretagne.
D'accord, très bien. Une Bretonne, donc.
Oui.
Quel âge avez-vous ?
J'ai 45 ans.
D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Sandrine ?
Je voulais intervenir par rapport à la dame qui est intervenue le 24 janvier dans votre émission, qui a témoigné en tant qu'AESH.
Oui.
Et du coup, moi, je voulais... apporter un petit peu un regard peut-être un peu optimiste aussi par rapport à certaines choses qui pouvaient être proposées. Parce que certes, la situation des AESH est précaire, on le sait tous, c'est de notoriété publique.
Mm-hmm.
Et j'ai mis en place...
Je précise, Sandrine, que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, le terme AESH est un peu technique. On appelait ça avant les auxiliaires de vie, ou les AVS, hein, c'est ça ?
C'est ça. auxiliaires de vie scolaire. Voilà. Et maintenant, ce sont les accompagnants d'élèves en situation de handicap.
Voilà. Et donc, on l'évoque souvent sur cette antenne, la situation donc, de ces AESH, de ces AVS, c'est plutôt compliqué. En tout cas, les propos qui ont été tenus sur cette antenne montraient qu'il y avait une certaine difficulté dans la reconnaissance du statut. Mais vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez.
Alors, oui, effectivement, il y a une difficulté effectivement, dans la reconnaissance du statut. Il y a la précarité dans un premier temps, mais c'est aussi les conditions de travail. En fait.
Vous me parlez sur un kit main libre, là, ou parce que ça coupe beaucoup ?
Non, pas du tout, je suis sur mon portable.
Ah bon, d'accord, parce qu'il y a une sorte de compression.
De vrai. Pardon.
On va regarder ça en régie, peut-être que...
D'accord.
Mais je vous écoute, allez-y, pardon.
Et en fait, je vous disais qu'il y a la précarité en termes de salaire, mais il y a aussi les conditions de travail qui commencent à se dégrader sérieusement,
oui.
Notamment depuis la mise en place du PIAL, donc c'est le pôle inclusif d'accompagnement localisé. Et ce PIAL-là, en fait, demande aux AESH d'intervenir d'une école à une autre... demande d'avoir une zone géographique d'intervention de plus en plus large, de plus en plus étendue, et sans tenir compte forcément des réalités, des conditions de travail, que ce soit pour le bien-être des AESH en premier lieu, parce que c'est les intervenants, mais aussi des élèves, parce qu'il arrive et il n'est pas rare que des élèves aient deux ou trois AESH, parce que il en manque de plus en plus, que il faut mutualiser au maximum les AESH et les accompagnements, donc pour pallier justement à ce manque d'AESH, mais la mise en place de ces métiers-là, à la base, était vraiment pour que les élèves en situation de handicap puissent suivre une scolarité en milieu ordinaire dans les meilleures conditions. Et là, plus ça va, plus ça se dégrade, et parce que ça se dégrade, et parce que moi, ça me heurte quand même à un certain niveau, j'ai fondé une association éricaine, qui vient justement apporter un lieu d'échange et d'accueil aux AESH pour qu'ils puissent échanger leurs expériences et aussi également aux parents d'élèves en situation de handicap pour qu'eux aussi aient un lieu de parole libre et en plus c'est un lieu où moi je peux leur donner des informations pour savoir où aller. J'ai souvent eu face à moi des parents complètement désœuvrés parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, ils avaient beau faire de leur mieux avec leurs enfants, au bout d'un moment, ils sont épuisés parce qu'ils ne savent plus, quoi. Et puis, personne ne leur dit rien. Et du coup, l'idée, c'était aussi justement de pouvoir les orienter, les aider, leur apporter une écoute attentive, et au moins leur apporter de l'attention qui leur manque au quotidien, quoi. Donc, j'ai beaucoup de familles qui contactent l'association. Par chance, à ma hauteur, je peux les aider dans la grande majorité. Il y en a, effectivement, ils me demandent des choses qui ne sont pas du ressort de l'association, qui ne sont pas dans les statuts, donc je ne peux pas me permettre de faire certaines choses. Pour autant, j'arrive à faire le lien entre les structures et les familles, et auquel cas, je leur envoie sur des contacts qui, eux, pourraient éventuellement par la suite leur donner soit une solution, soit leur apporter un début de piste, en fait. Mais je les laisse jamais comme ça, sans solution, en fait.
Et ça, vous le faites de votre propre initiative, en plus ?
Ah oui, puisque c'est moi qui ai fondé l'association.
Ah oui, pardon, d'accord, ok.
Ah oui, sinon ça n'a aucun intérêt.
Oui, bien sûr, pardon, excusez-moi.
Non, je vous en prie.
Je n'avais pas très bien compris, en fait.
Et par contre, ma grande surprise, c'est pas les AESH qui viennent, quoi.
C'est-à-dire ?
Et je trouve ça, les AESH ne contactent pas l'association. Alors,
oui,
on a fait le choix d'avoir une association éco-responsable, et... moi, je ne voulais pas ni faire d'affiches, ni de flyers pour les voir traîner dans les rues.
Oui.
Donc, on ne passe uniquement que sur les réseaux et par voie médiatique, en fait. Mais c'est vrai que, hormis ça, les AESH ne se manifestent pas, quoi. Alors qu'à la base, c'est dans un premier temps pour eux. Moi, j'ai pris contact, j'ai rencontré M. François Hollande une fois à la sortie d'un de ses ouvrages et la deuxième fois pour lui présenter mon association, parce que lui a fondé La France s'engage. C'est une fondation qui vient en aide justement aux associations. Donc c'est dans ce biais-là que j'ai voulu le rencontrer. Quand je lui ai parlé de mon association, il m'a dit « Mais c'est formidable, mais est-ce que vous vous rendez compte de la tâche qui vous incombe ?» Enfin, à quoi vous attendez ? Oui, enfin, c'est parce que justement, je vois l'importance hein, de cette association-là et pourquoi j'ai bien réfléchi à la rédaction des statuts avant de les déposer. Que oui, enfin, pour moi, je me rends compte que c'est important. Et vas-y, il va falloir vous trouver un parrain ou une marraine parce que là, toute seule, vous n'y arriverez pas.
Il a raison. Bah,
effectivement, il a raison. C'est beaucoup d'énergie. Mmh. Et ce qui est désolant, c'est ça, c'est que j'ai pas beaucoup de soutien à côté non plus. Enfin, quand j'en ai parlé à l'inspection parce que j'ai voulu jouer franc jeu avec eux, on m'a clairement rionné, quoi. Alors que ça leur coûtait rien d'afficher juste le nom de mon association et les coordonnées. Ça leur coûte rien du tout, au contraire, parce qu'en plus, avec les adhésions, il est prévu de pouvoir faire venir des intervenants extérieurs pour pouvoir apporter des informations complémentaires. Donc, c'est du donnant-donnant. Ça leur coûte rien et ça permet d'avoir du personnel formé en plus. Hein. Mmh, mmh. Et enfin, je comprends pas. Et les ASH, ils ont un investissement qui est là pour le prouver tous les jours dans leur travail. Mais ce que je disais à Florian, qui m'excuse. Ce que je lui disais, c'est que en fait, il y a eu un concours de circonstances. Hein. Quand j'ai déposé mes statuts, ça devait être un mardi ou un mercredi. Le samedi suivant, il y avait une émission sur France 2 avec Laurent Ruquier.
Oui.
Avec François Ruffin qui lui en tant que député défend et prend la position souvent justement des AESH pour justement mettre en avant les difficultés de travail et du coup donc quand il intervenait il lui demandait justement son avis par rapport à cette situation des AESH là et lui il disait justement on avait la même idée au même moment, c'est que il faudrait que les AESH se réunissent et puissent faire des manifestations auprès de la population pour les sensibiliser à leur travail et justement mettre en lumière un petit peu tout ça et que à force de faire des petites actions comme ça au fur et à mesure, ben, le métier soit généralisé et vraiment pris en considération par la population et peut-être que là, effectivement, il y aurait des choses qui seraient plus porteuses.
Est-ce que vous avez parlé avec François Ruffin ?
Alors, je lui ai envoyé un mail hein, pour aussi lui parler de mon association et il trouve ça formidable. Sauf que lui, bah, il est dans le nord de la France et moi, je suis en Bretagne. Donc, là, la distance n'aide pas non plus.
Oui.
Mais c'est vrai que, enfin, y a plein de choses. Hein. Moi, j'ai plein de choses à pointer du doigt. Mais en fait, il y a la précarité des AESH, la condition de travail des AESH qui se met à mal. C'est ce que je vous disais par rapport au PIAL, par rapport à plein de choses. Moi, ce qui me fait surtout hérisser les cheveux, c'est le verrou des contrats, quoi. Enfin, on n'a aucune issue. Quand je vous dis aucune issue, c'est des trucs de fou. Enfin, moi, ça me fait... ça m'insurge. Honnêtement, je ne peux pas faire autre chose que m'insurger parce que ça scandaleux, quoi. Les contrats, quand je vous dis qu'ils sont verrouillés, ils sont verrouillés. C'est des trucs de fou. Et on n'a aucun droit. On a rarement d'issue. Enfin, moi, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Je vous dis pas la croix, la tannée, etc.
Ah bon.
Ah, bah oui, parce que, alors, pour la faire courte, hein, je ne vous raconterai pas l'année que j'ai passée, parce que c'est un autre débat, mais ça a été une année compliquée. Et en fait, quand j'étais encore en CDD, donc j'enquillais mon deuxième CDD,
oui.
Et en fait, j'arrivais donc à la fin de mes 6 ans, donc CDI. Et on m'a proposé donc mon CDI au mois de juin, et mon contrat devait se terminer le 31 août. Comme ils ont une obligation légale de me prévenir 3 mois à l'avance, ils m'ont envoyé un courrier pour me dire que bah, voilà, il y avait mon CDI, j'avais 8 jours pour me positionner et donner mon avis. Mmh. Sinon, j'étais considérée comme démissionnaire. Eh bien, moi, je trouve ça pas normal. Alors, effectivement, il y a d'autres entreprises où ça se passe, hein, je le sais. Effectivement, si on nous propose un CDI et qu'on le refuse, on est considéré comme démissionnaire. Mais je trouve ça scandaleux. Dans la mesure où ça empêche les gens non seulement d'avoir un libre droit de mettre fin à leur contrat, en tout état de cause, et de garder leur droit sur leur cotisation, et de se retourner s'ils avaient un autre projet ou autre chose, ben, s'ils n'acceptent pas leur CDI, ils sont démissionnaires, donc ils perdent tous leurs droits. Ils n'ont aucune indemnité, ils sont démissionnaires.
C'est une obligation d'être embauché, en fait.
Voilà. Je leur ai dit, mais c'est une prise d'otage, votre contrat, en fait.
Ouais, ouais.
Il n'y a pas d'autre mot.
Et vous dites que dans d'autres entreprises, ça se passe comme ça ?
Bah, alors, je sais pas si c'est les textes de la loi travail qui a été mis en place avec le 49.3 ou quoi, j'en sais rien. Ça date pas d'hier, de toute façon, mais je crois savoir effectivement que dans d'autres textes, aussi dans le privé, il est possible que si on est en CDD et qu'on nous propose un CDI, il est possible qu'effectivement on soit considéré comme démissionnaire. Et là, alors, il y a Pôle emploi qui peut accepter des démissions si vraiment il y a un projet derrière. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait un vrai projet derrière pour éventuellement espérer avoir quelques droits aux ACDI. Et moi, j'ai vu des collègues partir au bout de 11 ans, leur donner des fins de contrat, et ils n'ont rien, ils n'ont aucune indemnité chômage, ces fins de contrat. Enfin, c'est même pas si ils ont leur droit au chômage, mais ils n'ont aucune indemnité sur leurs 11 ans de travail, quoi.
Oui, oui.
Et je trouve ça, mais scandaleux.
Oui. Vous avez raison. Vous avez raison.
Et quand moi, donc, j'ai eu un courrier d'Emmanuel Macron au mois d'avril, en mars-avril, pour me dire que lui, bah, il portait l'attention sur les AESH et leur situation. Donc, bah, merci. Moi, je n'ai rien demandé. C'est lui qui m'envoie le courrier, donc tout va bien. Sauf que bah, lui, donc, dans le courrier, il dit que pour améliorer leur situation, il allait faire en sorte que les AESH passent à 35 heures. Ben oui, très bien. Et moi, quand on m'a proposé mon contrat, donc mon CDI à 24 heures, j'ai contacté donc effectivement l'inspection. Je leur ai fait, mais attendez, mais je ne comprends pas. On vient de me proposer 35.
Mais,
donc, pourquoi on me proposait 24?
C'est insensé, ça.
Et en fait, quand je leur en ai parlé, ils me font, ben, on ne sait pas de quoi vous parlez. Je dis, ben, écoutez, il faut savoir à qui on s'adresse. Et du coup, elle m'a dit, bah, écoutez, nous, on n'a pas les informations, donc je ne sais pas où vous avez été chercher. Je suis d'accord. Et du coup, quand je leur ai renvoyé mon contrat, je leur ai envoyé une copie du courrier de M. Emmanuel Macron en leur disant, bah, par A plus B, en fait, noir sur blanc, que bah, ce que je dis, ce n'est pas pipoté. Et quand j'ai passé ma rupture conventionnelle avec le rectorat, là, les dames, elles m'ont dit, ah bah oui, effectivement, ça va rentrer dans les textes, les AESH vont passer à 35 heures. C'est ah, mais moi, quand je l'ai dit il y a 6 mois, on s'est foutu de moi, quoi.
Oui. Ouais, on voit que finalement, on continue à mal vous traiter, même par rapport à au bout de 6 ans, ça devrait bah, quand ça. Même consolider une,
bah, oui.
une situation. Mais ne manquez pas de me rappeler quand même pour... hein
non, mais je pour, sais pas.
Qu'on, mais si, d'ici quelques semaines, rappelez-moi et qu'on... Parce qu'on va reparler de ces situations d'AESH parce que c'est trop grave que...
C'est alarmant, surtout.
On ouais. entend souvent, hein, en plus ici, le parcours de combattant de tous les parents d'enfants porteurs d'un handicap. Et je trouve carrément scandaleux qu'on vous traite comme ça et qu'on n'est pas... bon, vous allez me dire, il y a les infirmières, il y a les... Hein, on va parler, faire la liste, mais là, il y a quand même depuis longtemps un vrai problème. Ces postes-là sont tellement nécessaires pour alléger la vie de ses enfants, mais aussi des parents. Hein.
Bah, bien sûr.
Merci en tout cas, Sandrine.
Mais de rien, Olivier.
Et puis,
merci à vous.
Ne manquez pas hein, de me rappeler. Et je prendrai même toujours du temps pour échanger avec vous et qu'on rappelle quelle est votre situation. Si ça n'avance pas, en tout cas, rappelez-moi. D'accord,
d'accord.
Et comme
très
il y a de
bien,
grandes
merci
chances,
beaucoup.
Comme il y a de grandes chances que cette situation perdure un peu, ne manquez pas de me rappeler. Et vous donnerez les coordonnées de votre association à Florian. Là, vous ne raccrochez
d'accord.
pas. Et on va le mettre sur notre site Facebook pour qu'au moins
merci beaucoup.
On puisse consulter. D'accord.
D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. C'est
bon,
très gentil.
Je vous en prie. Bon courage à vous, Sandrine.
Bon courage à vous
au
également.
Revoir.
Bonne soirée.
Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Dormez bien, respirez bien, faites de beaux rêves. Je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure à 23h. Salut.